dernière fois, je vous ai parlé des rafales d'Aristote. Et ça m'a beaucoup parlé de cet objet de la connexion, de la coordination que nous allons reprendre aujourd'hui. Mais à propos de formules qui commençaient par un canteur. Donc c'était à l'occasion de formules qui sont du type tous les animaux qui ne sont pas des hérissons. Il y a une négation qui est là devant et qui porte sur le connecteur. Aristote dit, Lacan le dit dans la dernière leçon du séminaire d'identification, considère que tous les animaux ne sont pas, c'est le nom de ce connecteur qui remplit la fonction de la copule, le verbe être, qui ne sont pas des hérissons, bien c'est équivalent à tous les animaux qui sont des non-hérissons. Et ça se trouve dans de l'interprétation. Enfin, ça commence dans de l'interprétation. Les hérissons, il n'en est pas question dans l'interprétation. Il en est question plutôt dans le traité de l'âme. C'est ce qui fait dire à Lacan qu'il aime beaucoup les hérissons. Lacan dit ça. Il aime beaucoup les hérissons. Quand il en trouve un sur le bord de la route, il s'arrête, il le prend. Et puis, il aime beaucoup les hérissons, il le met dans son mouchoir, il le met dans sa poche. Il dit que selon lui, il les aime beaucoup parce qu'ils ont l'air de penser, ils froncent les sourcils, ils froncent les paupières du front. Et ils sont. Voilà, lui, il les met dans son mouchoir et dans sa poche, mais il dit que le seul inconvénient, c'est qu'ils ont tendance à pisser dans le mouchoir. Alors là, Aristote, lui, il parle. S'intéresse donc de l'interprétation, il y a des exemples comme ça. Tout homme est blanc, quelque homme n'est pas blanc. Nul homme n'est blanc, quelque homme est blanc. Ça, c'est des énoncés, assez à propos de ces énoncés catégoriques. Et ça se trouve, ce problème se pose entre les énoncés catégoriques. Bon. Donc la logique contemporaine, elle résout ça en grâce. Alors, au paragraphe 10, je vous ai proposé de lire le paragraphe 10, ça commence comme ça. Il y a un tableau 1, l'homme est juste. La négation de cette phrase, c'est l'homme n'est pas juste. Et, quel que soit x, a de x implique h de x, la négation de cette phrase, c'est quel que soit x, non, a de x implique a de x. Et ben non. C'est pas ça la négation. Et c'est ça qu'on va apprendre par la suite à propos du canteur. Par contre, vous avez une phrase delta qui est la négation de gamma, parce que gamma, il prend ensuite gamma qui est l'homme est non juste. Au lieu de l'homme est juste, l'homme n'est pas juste, il prend l'homme est non juste. Et la négation de gamma, c'est l'homme n'est pas non juste. Ben oui. Pour la négation, il considère toujours, il fait toujours porter la négation sur l'ensemble. Donc ça, c'est l'homme, les hérissons, tous les animaux qui ne sont pas, qui sont non hérissons, la négation de ça, il dirait, Aristote, c'est tous les animaux qui ne sont pas des non hérissons. Donc il y a un petit problème technique concernant la négation. Et ça peut se résumer. Alors, moi je suis en train de. J'en ai fait de ce petit problème technique, l'introduction au calcul des prédicats. Donc j'ai rédigé ça fait 22 pages déjà. C'est le chapitre 5 de mon programme de logique. Je vais encore le travailler un peu, mais je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse, parce que je donne une explication à propos de la négation. Bon, c'est bien, la question est bien. Comment un certain nombre d'écritures logiques vont devenir extrêmement simples, à condition de les bien définir, et de les bien définir en relation avec cette combinatoire qui s'appelle la négation, ces combinaisons de négation. Savoir si la négation, on la met devant toute la parenthèse ou on la met devant le second. C'est une chose que on peut pas avoir beaucoup d'intérêt, mais ça a beaucoup d'intérêt parce que Lacan dit que cette notion conduit Aristote à une certaine idée, à une certaine idée de l'universel. Vous voyez, vous avez l'universel chez Aristote, chez Lacan, vous allez avoir l'universel chez Aristote. Il n'y a pas d'écrit majeur qui traite de cette question. Mais dans Lacan, vous allez ensuite retrouver l'universel en compte avec Sade, qui a été écrit après l'éthique. Mais le compte avec Sade, il se prépare dans les séminaires de Lacan, c'est pas l'éthique, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas parce qu'il parle effectivement du moraliste, du fantasme et du pervers, et du pervers comme moraliste. Donc on a les traces, c'est pas pour autant que. Vous voyez, puisqu'aujourd'hui, les choses s'aggravent, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais cet abandon européen, tout ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on est avec cette histoire de l'inversion, très mal en point. Et donc, il n'y a pas de lecture de Kant avec ça, de Lacan. Foucault, il préférait Klossowski, la monnaie vivante. C'est bien, la monnaie vivante, c'est pas mal. Justement, Klossowski, il fait du problème qui occupe le monde industriel, un problème moral, et il l'interprète plutôt du côté de la perversion. Alors, Lacan a traité de cette perversion dans Kant avec ça. Et il arrive à des conclusions beaucoup plus sombres que celles de Klossowski. Klossowski, voilà, il pose la question comme ça, pour notre époque. Il dit, voilà, comment se fait-il qu'une manière de fabriquer, il s'agit du capitalisme industriel, qui est apparu au XIXe siècle, singulièrement, particulièrement d'abord en Angleterre, maintenant s'étend dans le monde entier, cette manière de produire, diraient les marxistes, et Klossowski dit comment, pour bien rétablir les choses, comment une manière de fabriquer pourrait-elle avoir, peut-être être le sujet d'une telle réprobation morale. C'est une bonne question, c'est pas mal formulé, c'est vrai. Mais il va interpréter le problème en lisant Sade et en lisant Fourier comme utopiste. Hein? Et en montrant que le fantasme est pervers, utopique, surtout chez Sade, pervers, mais aussi chez Fourier, ça va conduire à une fable qu'il va construire, qui s'appelle la monnaie vivante. Et ensuite, pour conclure, que la monnaie vivante, qui paraît une fable assez peu réaliste, puisqu'il s'agit de réserver une partie de la population d'une nation pour s'en servir comme une monnaie, c'est-à-dire comme moyen d'échange. C'est pas le capitalisme, on capitalise pas la monnaie vivante, mais on utilise une partie de la population comme monnaie d'échange. C'est un peu les otages. Et évidemment, Klossowski commence à raisonner à partir de l'abolition de l'esclavage, dès les premières pages, à propos de cette manière de fabriquer, qui serait susceptible d'une réprobation morale, le capitalisme.
industriel, en expliquant, pour lui c'est très simple, très clair, que ce sont les mathématiques qui ont permis, à partir du moment où Newton a découvert la formule de la gravitation, la formule de l'univers, les mathématiciens, les ingénieurs se sont inquiétés de mathématiques. Avant, on ne faisait pas de mathématiques. Si on était ingénieur, on n'était pas bricoleur comme au temps du néolithique, mais on était quand même un peu ingénieur, les ingénieurs du Moyen-Âge, vous avez des livres qui portent ce titre. Vous pouvez lire ça dans le volume de la Pléiade aussi, sur l'histoire des sciences. Bon, c'est très clair que le machinisme, la machine, avec la machine à vapeur, elle n'a été rendue possible que par moyen de fabrication, instrument, parce qu'il y avait Newton. Les ingénieurs se sont inquiétés de mathématiques. Et qu'est-ce que ça leur a permis de faire? Et les banquiers ont pris le pas, et aujourd'hui aussi on fait des mathématiques dans les banques. C'est quoi? Le raisonnement est très simple. Avec les mathématiques, contrairement au fait de faire des approximations comme ça, pour savoir combien d'efforts va coûter, va réclamer tel ou tel produit, telle ou telle production, il y a quelque chose qui va apparaître après Newton qui s'appelle le calcul du rendement. Donc il y a la mécanique, il y a la mécanique newtonienne, mais il y a surtout le calcul du rendement. Le calcul du rendement, ça permet, ça intéresse aussi bien les banquiers que les capitalistes industriels, que les usines, la fabrique. Au lieu d'avoir des esclaves qu'on doit soigner, parce que le problème de l'esclavage, aujourd'hui, on voudrait que ce soit un crime contre l'humanité, bon, on voit bien que si on fantasme justement de manière perverse l'esclavage, la propriété du corps d'un autre, laisse supposer que le maître qui avait des esclaves, qui était propriétaire d'esclaves, il pouvait en faire ce qu'il voulait, donc il avait, comme le père avec ses enfants, comme le chef avec ses sujets. Aujourd'hui, le président de la République, il a un pouvoir de vie et de mort sur chacun de nous. La preuve, quand ils ont décidé de dégager deux otages, ils ont, pour des raisons tactiques ou stratégiques, ils font ça. Des amis de l'école de ces deux otages qui ont été assassinés dans un coup de bagarre avec les preneurs d'otages. Il y en a un qui a été tué par l'attaque et l'autre qui a été assassiné par les ravisseurs. Donc on ne sait pas très bien. De toute façon, la décision a été prise d'attaquer au lieu de négocier. Et donc, ça reste du ressort du chef de l'État. Nous sommes de la chair à canon. Et nous ne sommes pas seulement de la chair à canon si nous sommes des esclaves. Quand dans l'esclavage, on veut, si le maître a la propriété du corps de l'esclave, il peut en disposer aussi bien pour la vie et la mort, il peut en disposer aussi bien. Tout le monde, évidemment, va fantasmer là-dessus, à propos de l'exploitation sexuelle du corps. C'est pas si simple que ça, parce que le sexe, on sait que nous, dans le psychanalyse, c'est pas si simple. Le désir, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Ça peut donner lieu à des romans, ça aurait donné lieu à des romans, il y a des romans. Donc, mais ce qu'on oublie, Glosowski, il note que le calcul du rendement, ça permet un calcul extrêmement simple, grâce aux mathématiques, qui a fait disparaître l'esclavage. On n'a pas fait disparaître l'esclavage par gentillesse, humanité, cette soi-disant liberté que nous aurions, et nous avons une certaine liberté, c'est vrai, on joue un certain nombre de degrés de liberté. Enfin, vous voyez que ça se complique, par exemple, la liberté de se déplacer, l'avion, la technique, ça fait faire des progrès, mais quand même, si vous vous déplacez tant, si nous les nantis européens nous déplaçons tant, si on ne peut pas empêcher les pauvres de se déplacer autant, ils deviennent des immigrés, parce qu'ils vont se déplacer pour venir chez nous. Vous voyez, alors du coup, on est obligé de foutre des flics à toutes les frontières. Ça, c'est pas simple, cette histoire de liberté. Liberté de mouvement, liberté de déplacement. On a fait l'Europe pour pouvoir se déplacer, mais on a surtout voulu déplacer les marchandises. Et grâce à une monnaie unique, on arrive à faire du commerce entre, malgré les frontières. Mais les flics, c'est sûr qu'ils se posent la question. Ils disent c'est mal pratique, c'est beaucoup mieux d'avoir la possibilité de foutre des postes frontières, même indépendamment des taxes, un peu partout pour filtrer, pour contrôler tout le temps. Bon, donc la liberté, vous savez, c'est un truc difficile à manier. Et on a l'impression d'être moins esclave. Mais le capitalisme, il va quand même aliéner les salariés. Il va aliéner les salariés, il va le rendre fou. Puisqu'il, lui, il n'est plus dépossédé de son corps, le salarié, l'employé. Il est dépossédé de son produit. Et c'est aussi important. Alors le rendement, c'est quoi? Ben, le rendement, c'est que vous avez même un paranoïaque comme Céline qui le met très très bien dans un article qu'il a intitulé Avant-guerre dans les années 30. Il était médecin, lui, le docteur Destouches. Il était le docteur Destouches comme paranoïaque, anti-Céline, hyperesthésie de tout ce qui se passe dans la société autour de lui. Donc la majorité des gens étaient antisémites, il en a mis un paquet. Bon, il a quand même commis des fautes. Chose qui lui est un délit de publier des pamphlets, trois pamphlets fortement antisémites. Comment
il y a les baguettes pour un seul.
Il y a, comment ils s'appellent les deux autres, je ne me souviens plus immédiatement, là je viens de relire le truc, je viens de lire le bouquin de M. Céline qui a écrit Philippe Murelet. Bon. Les beaux draps, il y en a un, le deuxième c'est les beaux draps, et le troisième c'est plus bon. Peu importe, le problème n'est pas là. Le problème c'est que Céline écrit un article qui est paru dans les cahiers Céline, et qui alors là est très bien, intéressant. Ça s'appelle Comment tuer les chômeurs. C'est intéressant. Pour un médecin du travail, Comment tuer les chômeurs, il explique tout simplement que dans les années 30, il voyait c'est très facile. Suffit de leur donner un welfare, c'est-à-dire un welfare. Comment on appelle ça, l'assurance chômage, juste en dessous du niveau vital, suffisamment en dessous quand même, pour que, à terme, ils puissent pas bouffer, et ils puissent pas se soigner. C'est des questions de comptabilité.
C'est la loi Leonetti, ça.
Comment?
C'est la loi Leonetti.
Oui, ça s'appelait comme ça.
Non, la nouvelle loi pour permettre aux gens de mourir tranquille, on arrête de les nourrir et de les hydrater.
Ah oui.
Alors ils meurent vénards.
Oui, bien sûr.
On sent les attaquer.
Oui, bien sûr. Oui. C'est la question de savoir si on ne peut pas alimenter quelqu'un. Bon, enfin, le problème qui nous intéresse, c'est de voir que la liberté, le progrès, tout ça, il faut quand même regarder. Et alors, le glossophile, il faut d'aller voir. Comment, pourquoi une manière de fabriquer serait-elle susceptible d'un jugement moral? Que c'est pas bien. Bon. Et il commence tout de suite par expliquer donc, que l'esclavage a disparu parce qu'il y a l'industrialisation. Donc, le calcul du rendement a fait paraître très très vite que de posséder un corps d'esclave pour le faire travailler, c'était pas rentable du tout. C'était très peu rentable. Parce qu'il fallait aussi s'occuper de sa santé, parce qu'il y avait un commerce, il y avait un marché de l'esclave, c'est comme les tableaux, les œuvres d'art, il y avait un marché, donc il y avait une cote. Tout ça, l'esclave, il représentait une valeur. Et le maître ou le propriétaire, il devait veiller à la santé de son esclave. Et aujourd'hui, le salariat, c'est une chose formidable. Vous faites un calcul de rendement, vous payez quelqu'un qui a l'impression que, puisque déjà il gagne de l'argent, il a un salaire, il est employé, c'est bien, il peut vivre avec ça. Il ne fait pas tous les calculs qu'on a fait malgré lui, pour la part de lui. Mais le problème, c'est à lui de prendre en charge sa santé, c'est à lui de prendre en charge son alimentation, c'est à lui de prendre en charge sa famille, sa femme et ses enfants. Bon. Ça pose énormément de problèmes, et c'est ça ce que veut dire Klossowski, c'est que le premier point, c'est que le capitalisme comme moyen de production, c'est un calcul de rendement. Vous voyez, donc les mathématiques, ça joue un rôle qui peut ne pas être très sympathique. C'est d'ailleurs même comme le marxisme, puisqu'aujourd'hui tout le monde est marxiste. Marx, il a écrit le Capital pour que les ouvriers soient
capitalisme sauvage qui a une idéologie très précise. Ça s'appelle l'utilitarisme de Bentham. Bentham était l'argument du capitalisme anglais au début. Un Bentham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout ce qui est utile est bien. C'est ça l'utilitarisme. Donc donner du travail à des pauvres qui sont en plus chez les protestants, c'est quasiment des animaux, puisque si on a la grâce, on est, si on est élu déjà, c'est déjà décidé avant. Donc ils parlent pas de grâce, mais ils parlent de détermination. Donc si on est pauvre, c'est qu'on est quelqu'un quand même déjà pas mal de damnés. Alors donner du boulot aux damnés, on n'a pas attendu les damnés de la terre de Franz Fanon, vous voyez, les colonisés, ça va être pareil avec les colonisés. On va se conduire exactement comme le 19e siècle, qui s'est conduit de la même manière avec la classe ouvrière en Angleterre qu'avec les colonies. Et ça a continué même après. Donc, faire travailler des corps, c'est bien pour l'utilitarisme, le capitalisme. C'est pour ça que Lacan, dans l'éthique, il dit vous ne comprenez rien à Marx si vous ne lisez pas Bentham. Parce que Bentham, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui servait d'argument idéologique, le discours à notre idéologie. Quand ça a pu être la guerre entre les protestants et les catholiques, parce que les protestants et les catholiques, c'était à peu près comme les fascistes et les communistes de nos jours, dans les années 30, justement. Ça a changé un peu après-guerre, mais ça continue, on continue à nager là-dedans, soi-disant qu'aujourd'hui, on serait dans un monde merveilleux, sans idéologie. N'empêche que Marx, il faut reconnaître une grandeur à Marx, c'est peut-être pas le manifeste du Parti communiste le meilleur. Certains disent, c'est ça, mais la dictature du prolétariat, ça pose un... Lacan appelle ça le babysitting de l'histoire, confier à la classe ouvrière le babysitting de l'histoire. Mais par contre, la grandeur de Marx, en dehors du fait que le Capital, c'est un ouvrage écrit, c'est comme Freud, ce sont des ouvrages qu'on lira, on les lira toujours, même si on est dans notre système économique, on lira le Capital. Et puis, c'est en plus... Sa grandeur, c'est surtout qu'il a servi de discours, il a voulu servir de discours, il a servi de discours pour pouvoir s'opposer discursivement et idéologiquement et donner du courage à la classe ouvrière pour tenter de s'émanciper. Donc, si on ne vit plus dans la violence du capitalisme des Anglais, si on ne vit plus tout à fait comme des temps de Dickens, on n'a pas résolu vraiment tous les problèmes, on peut dire ça aux camarades chinois là, qui sont en train de venir... Il reste des différences quand même entre les mineurs qui sont dans certains coins et puis les mecs de Pékin qui sont avec des autos et que tous les produits de luxe européens se précipitent à Pékin ou en Chine. Là, j'ai un ami qui est en Chine, il me dit que pas seulement à Shanghai, à 300 km au sud de Shanghai, il y a une ville au bord d'un lac. Bon, c'était une petite ville très belle, il y a beaucoup de jardins. Temps de la Chine ancienne, mais maintenant c'est devenu une ville de 4 millions d'habitants. Il y a Hermès à tous les carrefours, même là, pas à Pékin, pas à Shanghai, il y a plusieurs centaines de kilomètres au sud de Shanghai. Donc nos affairistes se sont précipités là-dessus. Donc c'est pour vous dire que tout ça n'est pas simple, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser, qu'on ne peut pas en parler, qu'on ne peut pas tenir un discours et raisonner. Et donc la grandeur de Marx, c'est la première, ça c'est inqualifiable, ces connards, enfin, ces imbéciles, ces crétins, ces méchants, ces idiots. Je ne saurais pas trouver quel mot pour les insulter plus qu'ils prétendent. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu marxiste parce que le système économique, Marx l'a extrêmement bien décrit, mais sa grande, ils sont pas révolutionnaires, c'est pas le manifeste qui les intéresse, c'est le capital. Mais le capital, c'est le capital. Marx avait l'idée, il l'a même publié en feuilleton, avec Husserl le racontait très bien. Il voulait le publier en feuilleton pour que la classe ouvrière s'instruise du capital, parce que c'était important d'avoir un discours à opposer à Bentham. Bon, Bentham, il n'est pas complètement con, puisque Bentham, c'est même un type très intelligent, c'est un utilitariste. Il considère, comme tous les utilitaristes, que tout ce qui est utile est bien. Bon. Seulement voilà, à force d'étudier, il a inventé le panopticon, vous savez, ce qui a été la prison de la santé, la prison de la petite roquette, les quartiers ouvriers où il y avait une tour au milieu, puis des gardiens qui surveillaient, c'est comme des portions de tarte ou de fromage, vous voyez, c'est des secteurs de cercle. Les appartements, ils étaient comme ça alignés autour de la tour, donc on pouvait les surveiller depuis la tour centrale. On
on a fait ça pour les prisons, mais lui, il concevait ça même pour les quartiers ouvriers. Vous avez des très belles constructions utopistes dans le nord, du côté de la Belgique. Vous en trouvez aussi près du Rhône. Vous voyez, vous avez, comment ça s'appelle, les salins. Enfin, il y a toute une histoire de l'architecture utilitariste et utopiste. Pas tout à fait, mais ça fait partie aussi du même. Alors justement, c'est à propos de ça que Klossowski raisonne sur la monnaie vivante. Il s'interroge sur qu'est-ce qu'on fait avec les corps. Et il interroge Sade, l'aspect sexuel, et Fourier, justement, l'aspect utopiste. Et il construit cette fable de la monnaie vivante. Et pour finir, il faut nous dire, ben finalement, vous savez, c'est pas loin, ça peut vous paraître fabuleux que les gens soient des otages, soient réservés comme dans une bourse pour servir de monnaie d'échange. Mais regardez la situation du capitalisme, c'est quand même les employés, ils sont une population en réserve. Ça a été au début très violent, et ensuite il y a le colonialisme qui s'est répandu dans de bonnes parties du monde où ça a été très violent, ça l'est encore. Ça ne finit pas cette histoire de colonialisme. Regardez, on est en train de s'apercevoir là de l'autre côté de la Méditerranée, ils se révoltent contre quoi? Peut-être contre les ce qu'on appelle les tyrans qu'ils avaient, mais les tyrans, ils étaient bien soutenus par nous en Europe. C'est ce qui apparaît à certains. On a eu droit à un certain nombre de pataquès assez amusants. Tout ça peut dégénérer très 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 mal. Mais il faut reconnaître que tout le monde a toujours dit en Europe que les pays arabes, ils étaient de toute façon, ils avaient la dictature. Je ne suis pas sûr, c'est pas certain. C'est pas sûr du tout. Hein, et qu'ils étaient plus couillons que les autres, je ne sais pas, parce qu'ils étaient restés dans la folie. Moi, je connais les intellectuels arabes et même musulmans qui sont des gens qui disent qu'effectivement ils ont participé à l'apparition de la science occidentale, parce que c'est eux qui ont transmis autour de la Méditerranée les textes grecs, en grec, et que nous on lisait pas la philosophie grecque, on lisait Plotin en latin, et qu'on a découvert justement vers le 12-13e siècle, au moment du haut Moyen-Âge, les textes grecs qui ont commencé à arriver en Europe grâce au monde arabe. En plus, ils ont introduit en Europe, comme explique très bien Gibson, la théologie de l'existence. Et sans la théologie de l'existence, il n'y aurait pas la science mathématique que nous avons. Donc, ils sont parfaitement partie prenante de ce qui est le monde industriel et moderne. Seulement, le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas voulu. Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu rentrer là-dedans. C'est une question éthique, hein, tout ça. C'est là que ça devient une question éthique. Regardez, par exemple, les Japonais, ils ont refusé l'industrialisation et le monde occidental pendant 3 siècles. Et c'est seulement après avoir les militaires japonais qui pensaient que les occidentaux étaient des crapules, ils ont pensé qu'il fallait se conduire avec eux en ne respectant pas les lois de la guerre. Ils les ont attaqués à Pearl Harbor dans une parfaite traîtrise. Et l'armée américaine, qui a un beau faucon sur son sigle, même le président des États-Unis, c'est pas des gens, les militaires américains, c'est pas des gens non plus. Ils sont autant des animaux que les autres, que les féodaux. C'est pas parce qu'ils sont modernes qu'ils sont moins militaires. Les militaires, c'est des gens qui vivent avec une idéologie. C'est un peu comme les religions, c'est des doctrines, c'est des discours qui sont très vitalistes. Regardez combien c'est fait de modèles animaux et botaniques. Voyez, bon. C'est peut-être le trait majeur qui fait que la religion, la féodalité, les militaires, ils ont un Freud pour les foules, il prend l'armée et l'église, vous voyez, c'est les foules, Freud, il y a des deux exemples de foules. Et il fait la théorie des foules, qui est une théorie qu'on retrouve, il interroge justement ensuite les criquets. Pose le problème des animaux grégaires, de l'identification. Et Lacan va parler de ça très très bien et éclairer beaucoup la question dans le propos sur la causalité psychique, quand il parle de faire une science de l'objet de la psychologie, de ce qui s'appelait chez Freud et chez les Freudiens l'imago. Hein, l'imago, il parle de l'imago à l'époque. Ça va donner l'objet quita chez Lacan, qui est un objet mathématique. Hein, donc c'est quand même assez étonnant qu'il faudrait expliquer tout ça à des gens encore aujourd'hui qui
qui sont complètement ignorants, qui ne se rendent pas compte que l'objet de Tital, là quand on dit que c'est Cantor, c'est un objet de l'aide de la théorie des ensembles, il faut l'introduire dans la psychanalyse au même titre, donc, si vous voulez, que le capitalisme n'est pas né, le monde que nous connaissons industriel n'est pas né de la bonne volonté ou de l'ingéniosité des ingénieurs qui, en observant mieux les choses, auraient arrêté d'être troublés par leurs illusions. Pas du tout. Ils se sont mis à faire des mathématiques parce que Newton avait foutu un coup de tonnerre en Europe. Et Newton s'est permis grâce à Galilée et à Kepler. Et Galilée et Kepler, ils ont commencé à faire des mathématiques. Galilée a dit le monde s'écrit en mathématiques parce qu'il y avait la théologie de l'existence. Et Descartes lui dit aussi, Dieu n'est pas trompeur. C'est quoi la théologie de l'existence? Lisez Gilson là-dessus. Première introduction, le premier chapitre de son traité, de son essai sur saint Thomas, le thomisme, ça s'appelle Chevreuil. L'introduction, vous avez des choses merveilleuses à lire pour comprendre quelque chose à la psychanalyse, par exemple. Aussi bien le fait de la foi, ce qu'il explique, c'est la différence entre la foi et la croyance. Là, vous avez une théorie du transfert. Moi, j'ai fait une conférence sur le transfert à Santa Fe, en Argentine. Il m'invite dans une ville qui s'appelle Santa Fe, la Sainte Foi. Alors je leur ai dit, ben écoutez, si vous m'invitez ça la prochaine fois, moi je vais vous parler de la foi. La foi, ça m'importe beaucoup. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est pas la croyance, croyez pas ça. Bon, c'est pas la sainte foi dans la psychanalyse, mais ça s'appelle le sujet supposé savoir. Et ça fait que le silence. Alors justement, la psychanalyse, c'est analyser ça. Bon. Vous trouvez ça extrêmement bien expliqué chez Gilson dans son livre sur le thomisme. Dans l'introduction, et c'est la foi, c'est une preuve d'humilité. On ne peut pas tout savoir. On pourrait, après Hegel, on pourrait redécouvrir la foi, mais pas la croyance. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle le révélable, dit saint Thomas. C'est tout ce qu'on peut étudier. Donc les païens sont étudiés le révélable. C'est le savoir qui est laïque et païen. Et lui, saint Thomas dit, moi j'ai la foi chrétienne, je crois en la révélation chrétienne. Bon, moi, personnellement, je ne crois pas en la révélation chrétienne. Mais moi, je vous parlerai quand même d'un truc qui s'appelle la contingence. Qu'est-ce que c'est que la contingence? C'est pas le possible, c'est pas l'impossible. La contingence, c'est pas le nécessaire. Le nécessaire, c'est ce qui ne cesse pas de s'écrire, dit Lacan. Donc vous avez du nécessaire. Le nécessaire, c'est quand ça marche tambour battant. Au pas. Bon. Ça ne cesse pas. Donc ça marche, c'est les algorithmes, oui, c'est les machines. Mais en mathématiques, il y a un truc qui s'appelle, dans la psychanalyse, c'est le point commun. Voilà le point commun qu'il y a entre les mathématiques et la psychanalyse. Hein. Les religions et les militaires, le point commun, c'est plutôt des gens qui sont dans des discours zoologiques et botaniques, éthologiques et biologisants, la matière organique, quoi. Tout ce qu'on peut faire avec des organismes, c'est très intéressant, hein. Je ne dis pas le contraire, mais ça reste quand même, les animaux, ils ont des cycles qui sont automatiques. C'est nécessaire. Ils vont pisser aux quatre coins du territoire, et la libido, l'extension du territoire, c'est la libido, ça leur permet de faire signe. C'est-à-dire, Kojève dit ça, c'est le signe, c'est vital et non humain. Bon, donc ils font signe, ça veut dire qu'ils font la même danse, et hop, ils vont pratiquer leur sexualité de cette manière-là. Nous, justement, on a un autre type de libido. L'extension de notre territoire, il a des portes. Et c'est grâce à ces portes que le langage introduit dans notre libido, il y a quelque chose. Le langage, ça introduit la pudeur, c'est-à-dire une manière d'ouvrir et de fermer la porte de plein de manières différentes. Une manière de jouer de la porte. Il n'y a pas que des portes de coffre-fort. Donc, le langage, c'est une porte. Lisez dans le séminaire Lacan, le livre 2, la conférence de Lacan qui s'appelle Psychanalyse et cybernétique. Vous voyez que Lacan, le sous-titre, c'est la nature du langage. Bon, qu'est-ce qu'il parle? De quoi il parle là-dedans? Il parle des portes et des tables de vérité comme ça. Ces deux petites tables, vous les trouverez dans le séminaire Lacan, dans le séminaire 2. Hein? Eh bien, Alouche, ce crétin, il est déçu parce que Lacan n'a pas parlé des machines plus de la cybernétique. Il s'attendait que Lacan nous parle, je ne sais pas, moi, des Spoutniks ou des ordinateurs. Bon,
Lacan, il parle de cybernétique, il cite Wiener, hein, il a lu Wiener, écoutez, il a été très proche pendant très longtemps, il a travaillé avec Riguet, qui était un mathématicien, qui a fait en France, une des chevilles ouvrières avec les 10 graphes, pas les graphes, mais les 10 graphes. Vous connaissez Lacan, Riguet, le fréquentait. Il parle au séminaire dans le séminaire 2, il était déjà là dans le séminaire 1. Riguet, il a fait toute sa carrière ensuite comme ingénieur, il a développé toute l'informatique en France. C'est un quelqu'un qui a un rôle extrêmement important. Et il travaillait avec Lacan. Lacan connaissait très bien tous ces problèmes extrêmement intéressants de machines. Seulement, Lacan, lui, ce qui l'intéresse, c'est quand même cette histoire de porte. Il parle tout le temps de la porte quand il parle du langage. Il y a différentes portes. Il y a des portes automatiques, il y a des cellules photoélectriques, il y a des systèmes d'autorégulation. Bon, tout ça, ça peut nous paraître déjà assez intelligent. Un ascenseur, n'est-ce pas, qui va s'arrêter avec des... Ça se passe en quelques secondes. Je veux dire, c'est des cellules, une cellule photoélectrique qui repère un faisceau et qui va régler l'arrêt de l'ascenseur. Vous ne le sentez même plus, tellement on a fait des progrès technologiques.